voisin, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiot.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. On la croyait disparue, enterrée, oubliée, on en avait même fait un délit pour ceux qui ouvrent leurs portes à des exilés. Et pourtant, la solidarité semble bel et bien toujours exister. Survivante d'un monde en quête de son humanité, comment ne pas la voir dans cet élan citoyen qu'on observe partout dans le monde, dans ce sursaut de générosité envers les migrants, les sans-abri, les personnes âgées et bien d'autres. Quels sont les nouveaux visages de cette solidarité? Comment s'organise-t-elle, tantôt bénévole ou tantôt lucrative, hein, quand elle prend la forme d'entreprise sociale et solidaire, on en parlera. Et quel avenir pour cette entraide d'un nouveau genre? Bonjour Serge Guérin.
Mes hommages.
Vous êtes sociologue émérite, vous avez coécrit avec Pierre-Henri Tavoyot le livre « La guerre des générations aura-t-elle lieu ?» Et la réponse est non, manifestement.
Absolument.
On n'aura pas de guerre des générations, au contraire. Romain Slitine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences à Sciences Po Paris et consultant spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, un secteur en plein essor. Bonjour Jean-Pierre Boudard.
Bonjour, enchanté.
Vous êtes, enchanté également, vous êtes en ligne avec nous par téléphone. Vous avez vécu à la rue dans votre jeunesse. Aujourd'hui, vous en êtes sorti et vous venez en aide à d'autres sans-abri. Nous serons également en ligne avec une jeune femme, une voisine engagée à Dakar, Samantha Tracy, qui, de sa propre initiative, distribue des vêtements et de la nourriture à des familles défavorisées. Et vous, les voisins, les voisines, qu'en pensez-vous? Avez-vous des exemples de projets solidaires autour de vous? Et puis, si vous faites partie de cette vague de solidarité, si vous-même vous vous engagez pour les autres, racontez-nous pourquoi, comment, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 33 1 84 22 71 71 et puis bien sûr vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et vous réagissez déjà sur Facebook, les voisins. Thierry nous écrit depuis N'Djamena. Au Tchad, il fut un temps où les gens vivaient solidaires. Hélas, c'est maintenant une utopie. Chacun met son propre intérêt avant celui des autres. Mardoché Etayaoundé, lui aussi, est assez pessimiste. Il écrit « La solidarité africaine se perd de plus en plus au profit d'une vie repliée à l'européenne. Heureusement, la solidarité existe encore de temps en temps. Si je prépare à manger et que mon voisin n'a rien, je vais l'inviter. » Diaby nous écrit, lui, depuis Bamako, je le cite, « Moi, je suis le président d'une association pour la promotion de l'informatique en milieu scolaire et universitaire. Nous formons pour combler le vide académique en informatique. Sans solidarité, cette association n'existerait pas. » Et Abdoulaye, et lui aussi à Bamako, il écrit, « Au Mali, je participe au lancement d'une association de promotion de la santé, de l'éducation et de l'environnement. Rien que ça, la solidarité existe toujours, sinon le monde s'écroulerait. »
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Mais tout de suite, témoignage, celui d'Anouk, parisienne, la trentaine, choquée de voir près de 4000 migrants jusqu'au mois de novembre dernier dans un campement de fortune au bas de Stalingrad, en station de métro du 19e arrondissement de Paris. Anouk se met alors à distribuer des repas avec une amie, elle crée une association, Va faire cuire un œuf, c'est le nom de l'association. C'est ainsi qu'Anouk croise la route de Max, réfugié érythréen de 15 ans, réfugié à la rue. Elle décide de l'héberger chez elle pendant un mois et demi, le temps qu'il soit pris en charge par un dispositif, le dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers. Aujourd'hui, Max est logé à l'hôtel. Il rend parfois visite à Anouk, comme ce jour où notre reporter Alice Milo est venue glisser son micro.
You have a extra change here, you know, like a pyjama something if you want, and you give me all your clothes. Ah, one trouser you have. Yes, okay.
Donc ici on est chez vous?
Alors oui, ici on est chez moi, dans mon petit appartement parisien. Et je viens d'accueillir en fait Max, qui est venu avec un de ses nouveaux copains là aujourd'hui pour faire une lessive.
Donc pour faire une machine chez vous?
Tout à fait.
Mais Max, vous le connaissez bien depuis longtemps?
Alors Max est devenu un peu comme mon petit frère. Je le connais parce qu'il a en fait vécu chez moi pendant un peu plus d'un mois et demi.
Il est érythréen?
Oui.
Et donc ils étaient dans la rue?
C'était deux jeunes que j'ai rencontrés dans la rue, oui, tout à fait. Deux jeunes mineurs de 15 ans, voilà, avec qui je sympathisais.
Et maintenant, il est à l'hôtel?
Et maintenant, il est logé à l'hôtel en attendant en fait, qu'on évalue sa minorité vendredi le 17.
Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous vous êtes organisé pour me faire visiter votre appartement et m'expliquer un peu comment vous vous êtes organisé?
Pour Paris, j'ai la chance d'avoir quand même un appartement assez grand, 60 mètres carrés pour deux. Donc en fait, j'ai aussi la chance d'avoir deux petites pièces à vivre, donc une salle à manger et un salon et une chambre à part. Au tout début, nous, on a fait un dormait sur le canapé et on faisait avec les coussins des fauteuils un autre lit. Et puis,
donc ils dormaient tous les deux dans cette pièce-là.
Ils dormaient tous les deux dans cette pièce-là. Et ensuite, on a eu de la famille qui est venue la famille de mon copain qui est venue à Noël et qui a emmené un matelas gonflable de place. Donc après, c'était beaucoup plus pratique. En fait, on a juste poussé les fauteuils et tous les soirs, on a monté le matelas gonflable.
Donc du coup, vous étiez quatre dans cet appartement.
Du coup, on était quatre dans cet appartement, voilà.
C'est quand même un effort de votre part.
Oui, ça pouvait être un problème, effectivement, parce que parfois, on a juste envie d'être tranquille, peut-être devant la télé. Du coup, je me suis mis à beaucoup plus lire et à aller au lit peut-être plus tôt. Moi, je m'organisais qu'ils avaient une clé de chez moi et que voilà, en fait, on mangeait ensemble le soir ou pas, parfois si j'étais pas là, qu'ils savaient se débrouiller. Moi, j'ai eu confiance et il n'y a eu aucun souci. Enfin, moi, donc, il y a un petit appartement, je n'ai pas de coffre-fort où je mets mes bijoux ou si j'ai du cash à la maison ou des choses comme ça. Voilà, c'était peut-être un risque ou pas un risque, je ne me suis pas posé la question.
Comment ont réagi les gens autour de vous quand vous avez commencé à dire « bah oui, il y a deux migrants qui dorment à la maison en ce moment, vos parents, vos amis ?»
Les gens ont juste dit qu'il fallait pas non plus que ça me bouffe au niveau moralement, etc. Parce qu'au début, ce qui est le plus difficile, c'est de voir, parce qu'on a l'impression que c'est un puits sans fond et que c'est très difficile, parce que de voir tous ces jeunes à la rue et tout, c'est pas facile. Tout le monde me dit si je pouvais ou si j'avais le courage, mais en fait, je pense que le plus difficile, c'est de s'y mettre et de le faire. Rien n'est impossible, rien n'est un problème. En fait, si on a peur de tout, on vivra pas. Voilà, moi, c'est juste que j'essaie d'appliquer maintenant à ma vie les idées que j'ai. C'est tout. C'était plus forcément là des paroles en l'air, c'est aussi des actes, en fait. Je m'étais un peu oubliée, peut-être. Et là, j'ai eu juste l'impression de retrouver un petit peu et de retrouver des valeurs, voilà, que j'avais peut-être perdu un peu.
Mais donc, du coup, vous, à quel moment ça s'arrête, en fait, votre solidarité ? C'est-à-dire que, à quel point on décide d'être solidaire et puis, à un moment donné, de se dire, ma solidarité va s'arrêter à cet endroit-là, parce que vous pourriez très bien... Là, vous avez trouvé une solution temporaire d'accueil d'hôtel pour Max, mais des jeunes comme Max, il y en a plein d'autres à la rue, vous pourriez, à nouveau ouvrir votre salon à de nouvelles personnes. À partir de quand vous vous dites, on va s'arrêter ?
Nos limites, c'est que je pense que là, reloger quelqu'un de manière sur un mois et demi, deux mois, pour le moment, ça n'arrivera pas forcément, mais en tous les cas, reloger des personnes pour 2-3 nuits, là, il n'y a aucun souci. Je leur ferai, à chaque fois que j'aurai sollicitation, si c'est un moment où on peut le faire, on le fera. Après, c'est ce qu'on dit, on ne devrait pas avoir à le faire. Je ne devrais pas avoir à le faire. Mais en même temps, l'État, en ne logeant pas des mineurs et en les laissant à la rue, ils sont aussi coupables. L'État ne prend pas ses responsabilités. Donc après, c'est à nous d'être citoyens. Ce que je voudrais juste faire, c'est aller avec mon association, juste faire des sorties culturelles, et faire des activités ou la fête.
Et donc, vous attendez quoi aujourd'hui ?
En fait, j'attendrai juste que l'État peut-être s'organise mieux, arrête de chaque fois aussi rejeter la balle d'un service à un autre et que juste il se retrousse les manches, parce qu'on ne parle pas non plus de milliers de personnes, il s'agit juste de quelques centaines d'enfants. Je voudrais juste que en fait, l'État fasse ce que normalement il devrait vraiment faire et vraiment mettre un dispositif en place.
Témoignage et coup de gueule d'une femme citoyenne qui, depuis l'interview, a de nouveau accueilli de nouveaux jeunes mineurs chez elle pour plusieurs nuits. Tous ont été déboutés par le dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers. Comment vous réagissez à l'écoute de ce témoignage, Serge Guérin ?
Ce qui est intéressant, c'est que derrière, quand cette personne dit l'État et ainsi de suite, mais de toute façon, en effet, l'État ne peut pas tout, et sans doute même l'État ne doit pas tout faire, et c'est, même s'il fait beaucoup de choses, de toute façon, l'être humain doit rester ce qu'il est. On est fait aussi pour être solidaire. Alors c'était très bien, à un moment donné, la journaliste lui demande, mais jusqu'où ça va ? Parce qu'on ne peut pas être solidaire à 100% d'une certaine manière. Et puis parfois, on est solidaire avec les uns, et puis pas avec d'autres, pour plein de raisons. Donc il faut aussi savoir, d'une certaine manière, s'écouter. on a le droit d'être solidaire, mais on n'a pas d'obligation à être comme ça que solidaire. On est d'abord un être humain avec ses problèmes et ainsi de suite. C'est comment, en fin de compte, dans une société qui se veut plus complexe, plus normée, comment, en fin de compte, on trouve toujours des marges de liberté pour un moment ou un autre dire non ou simplement dire oui, et comment s'organiser à partir de ce moment de solidarité que je me sens capable de faire ou dont j'ai envie de faire preuve. Encore une fois, j'en fais là, elle, c'est les mineurs et ainsi de suite, mais elle n'en fera pas à tel autre. Il ne s'agit pas de lui dire « Ah, mais tu n'as pas fait pour ça ». C'est chacun fait aussi comme il peut, comme il sent. Et derrière, c'est cette notion de sens, parce que ça lui donne aussi, elle le dit à un moment donné, ça redonne du sens à ma vie. C'est-à-dire que finalement, c'est toujours cette notion de réciprocité. Je le fais pour les autres, mais je le fais d'abord pour moi et je le fais avec les autres. Comment aussi je construis pour que cette personne-là soit ensuite plus autonome et ainsi de suite. C'est pour ça que ce n'est pas juste, c'est pas la générosité. C'est bien de la solidarité, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion derrière.
Il y a un intérêt.
Il n'y a pas d'acte gratuit.
Il
y a un intérêt. Et le premier des intérêts, c'est simplement de se dire en fait, je suis quelqu'un de bien, ou je retrouve du sens à ma vie, ou je découvre aussi une autre personne.
On pense aussi à ces villageois, notamment dans les Alpes-Maritimes, dans la vallée de la Roya, proche de la frontière avec l'Italie, d'où arrivent de nombreux migrants. On a eu ce militant, Cédric Héroux, agriculteur engagé, qui a logé, nourri, orienté plusieurs centaines de migrants, qui a été condamné à 3000 euros d'amende avec sursis. Et il avait déclaré « Mon inaction et mon silence me rendraient complice. C'est notre devoir de se lever quand les choses vont mal. On devient solidaire pour ne pas se sentir coupable. » Romain Stitine.
Alors, on devient solidaire pour ne pas se sentir coupable, peut-être, mais aussi pour donner un sens à sa vie, je pense. Et quand on parle de solidarité, moi, je vais plutôt parler de l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat social. C'est aussi pour dire qu'on peut faire de l'économie et être solidaire et combiner les deux. Et ça, c'est quelque chose d'important qui se développe.
Les voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Romain Slitine, on parle de l'économie sociale et solidaire, on en parle de plus en plus, on dit que ça fait partie aussi de cet élan, de ce soubresaut citoyen, mais qu'est-ce que c'est vraiment que cette économie-là ?
L'économie sociale et solidaire, c'est un mode d'entreprendre, c'est tout un pan de l'économie qui n'est pas suffisamment connu et qui cherche à concilier activité économique et équité sociale et solidarité. Ça montre qu'en fait, au quotidien, on peut développer des entreprises qui n'ont pas pour objectif de faire du profit pour le profit et pour avoir une vocation patrimoniale, mais bien de faire de l'économie pour avoir plus de solidarité, soit de la solidarité interne, comme dans le cas des mutuelles ou des coopératives, où on peut être solidaire entre agriculteurs, par exemple, soit de la solidarité externe pour pouvoir aider des personnes exclues ou sans papier ou exclues du monde du travail, par exemple. Et c'est vrai que l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, on en parle. C'est très bien qu'on en parle l'antenne d'RFI. On en parle encore trop peu. Mais il faut savoir que c'est un mouvement qui intéresse de plus en plus et qui se développe de plus en plus. Quelques chiffres, juste pour dire que c'est en France 10% du produit intérieur brut. C'est 12,7% des emplois, près de plus de 2,3 millions d'emplois.
En France,
tout à fait. Et en France, toujours, c'est un secteur qui, par exemple, a créé plus d'emplois que l'économie traditionnelle, puisqu'il a créé dans les 10 dernières années 400 000 emplois avec une croissance de 23%. Et c'est aussi un secteur d'avenir, puisque d'ici 2020, il y aura, selon les prévisions, plus de 600 000 recrutements prévus dans le secteur de l'ESS. Donc c'est vraiment pour dire que c'est un champ qui est en train de se structurer, de se développer et qui intéresse de plus en plus de monde.
Et dans quel secteur, par exemple, on a cette économie sociale et solidaire ?
Alors, l'économie sociale et solidaire, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est dans un grand nombre de secteurs, actions sociales, santé, agriculture, dans la protection de l'environnement, dans les finances, dans l'épargne, dans le commerce équitable et évidemment dans tout ce qui est lié trait à la lutte contre les exclusions. Donc il n'y a pas, et j'en oublie, donc il n'y a pas de limite à entreprendre autrement, entreprendre différemment, entreprendre pour plus de solidarité et non pas simplement pour s'enrichir.
Ce n'est pas la recherche du profit qui est la priorité pour ces entreprises-là.
Exactement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, Un entrepreneur de l'ESS, pour le dire simplement, c'est comme un entrepreneur classique, sauf que son projet est différent. Et son projet, c'est de se dire, bah voilà, je veux faire de la solidarité, ou bien je veux lutter pour concrètement pour un environnement meilleur, et donc je vais mettre mon savoir, mon talent d'entrepreneur, mon entreprise, c'est souvent des entreprises qui agissent collectivement, des entrepreneurs parfois collectifs, au service vraiment de cette mission première que je me suis donnée. Et c'est ça qui fait vraiment la différence entre une entreprise traditionnelle et une entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est la finalité que l'on se donne principalement.
Et comment on peut expliquer ce succès, Serge Guérin, de cette économie-là, de ce secteur, auprès des jeunes notamment, qui sont nombreux à vouloir entreprendre dans ce domaine ?
Alors, c'est aussi la question du sens, justement. Après tout, si on reste sur cette logique où finalement c'est une activité économique, mais qui simplement ne cherche pas à faire de profit, ces gens qui se disent, en fin de compte, je vais me sentir utile, je vais être expert de mon domaine, j'ai une compétence, je suis reconnu par cette compétence, et en plus, je la mets au service des autres d'une certaine manière, et du coup, je me sens utile. À l'INSEC, où je suis prof, la première semaine de rentrée, on a fait justement autour de manager autrement. Et entre autres, il y avait un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et il y a une jeune fille donc, qui avait fait une prépa et tout ça, qui me dit, deux, trois jours après, qui me dit « Ah monsieur, on a rencontré des gens et en fait, ils ont monté leur boîte, pas pour faire de l'argent. » Et pour elle, c'était...
Ça la surprenait.
Mais oui, ça la surprenait, mais en même temps, ça l'intéressait. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne s'était pas posé la question. Le deuxième élément de l'économie sociale et solidaire, où la question sociale et solidaire doit être plus présente, parce que parfois, c'est, en fin de compte, utiliser des subventions. Parfois, ça ne va pas tellement au-delà. C'est, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont aussi plutôt dans des logiques de care, qui sont aussi dans les logiques où comment j'implique les personnes elles-mêmes. Ce n'est pas l'idée de faire pour les autres, c'est de faire avec les autres. Et là, on décuple la solidarité parce qu'on contribue aussi à redonner leur dignité à des personnes. Et ça, c'est vraiment un enjeu extrêmement majeur. Dans le master que je dirige, directeur des établissements de santé, on est aussi bien avec du privé lucratif, mais aussi avec du privé non lucratif, avec des entreprises sociales et solidaires qui sont dans le domaine justement du médical, de l'accompagnement des personnes âgées, ainsi de suite. C'est-à-dire que, pour reprendre ce que disait Romain, tous les secteurs peuvent être concernés. Et ce qui est intéressant, tous les plans de l'économie. Et cette notion de solidarité, c'est aussi, elle peut transformer le monde. Elle peut partir une toute petite chose, la microfinance. Ça peut être des gens de tous les âges qui mettent un petit peu d'économie pour permettre à quelqu'un de tous les âges aussi, une femme souvent, mais pas nécessairement, qui va monter sa boîte, ainsi de suite, et tout le monde aide. Et d'une certaine manière, tout le monde fait partie de ce grand système solidaire.
Et c'est là qu'on parle de micro-solidarité. Les voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Et nous sommes en ligne avec un voisin, Jackie. Bonjour Jackie.
Bonjour madame.
Vous êtes à Antananarivo, à Madagascar. On vous écoute.
Oui, d'accord. J'ai posté un message donc, concernant notre association voisin-voisine.
Mm-hmm.
Le but c'est de prévoir certains incidents. Par exemple, si il y aura, par exemple, un accident, de la maladie, quelque chose comme cela. Donc, j'ai aussi la possibilité des gens. Ici, c'est presque... Il y a une dégradation au niveau social, trop de chômage, quelque chose comme cela. Donc, on a dû fonder cette association-là en 2000.
Mmh.
Donc, le but, c'est de... soulager un peu les frais médicaux.
Et vous organisez, je crois, des cagnottes, en fait, auprès de la population pour récolter des fonds?
Oui, c'est comme ça. Donc, c'est 10 000 arias, c'est-à-dire à peu près à 4 euros tous les mois.
Ah, c'est une adhésion, en fait, et on donne chaque mois pour ces frais-là, pour les plus démunis.
Donc, actuellement, nous sommes à peu près à 100 les membres.
Et vous écrivez d'ailleurs sur Facebook, la solidarité disparaît, mais on ne se décourage pas. Merci beaucoup pour votre témoignage, Jackie, votre témoignage très encourageant. Serge Guérin, Romain Slitine, vous restez avec nous. On vous retrouve juste après le flash. Nous serons aussi en ligne avec Jean-Pierre Boudard. Les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71. On attend vos points de vue, vos témoignages. Si vous aussi, vous engagez comme Jackie, si vous faites partie de cette grande vague citoyenne et de solidarité, vous nous appelez. À tout de suite dans 3 minutes.
Speak en français.
7 milliards de voisins.
on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez. Loin des rengaines alarmistes ou défaitistes, nous parlons aujourd'hui de solidarité qui résiste à l'individualisme, à l'indifférence. Et non, la vague de repli identitaire n'a pas tout emporté sur son passage. Les jeunes générations, et les chiffres le prouvent, se tournent vers l'entrepreneuriat social, plus avides de sens que d'argent, et tant pis pour les rêves que projetaient sur eux leurs parents. On en parle avec Romain Slitine, consultant spécialisé dans l'économie sociale et solidaire. Vous publiez un livre sur le sujet aux éditions PUF dans la collection Que sais-je. Serge Guérin, sociologue, vous avez coécrit le livre La guerre des générations, aura-t-elle lieu ? Jean-Pierre Boudard, vous qui avez vécu à la rue à l'âge de 17 ans, vous êtes aujourd'hui directeur de 6 agences immobilières. Vous aidez à loger des sans-abri. Les voisins, vous continuez de nous écrire sur Facebook. L'endigue est à Dakar. Je le cite, la solidarité existe-t-elle encore ? Si déjà on se pose cette question, c'est que la solidarité a des problèmes. Nous avons pourtant besoin d'elle encore plus qu'avant. La pauvreté est de plus en plus ordinaire. Et puis, Neftali nous écrit depuis Port-au-Prince, en Haïti, pour nous dire « La solidarité, c'est ma passion, mon quotidien. Un monde solidaire, c'est possible. Il faut s'y remettre, les voisins. » Voilà, une note d'optimisme. Solidarité, 5 syllabes que vous feriez mieux de retenir, les voisins, les voisines. Elles ne sont pas prêtes de disparaître.
Trop souvent, dans le cadre de la mondialisation ultralibérale, la solidarité est réduite au supplément d'âme d'un monde sans âme.
Il faut souligner que l'entraide et la solidarité ont aussi joué leur rôle.
Ça a été un élan de générosité jusque 3h du matin.
Une solidarité 2.0 qui a sorti le couple de la rue.
Le numérique étant partout, la solidarité aussi prend des formes numériques.
Qu'est-ce que je dois faire ? C'est-à-dire dire non, tu viens pas chez moi, tu vas errer dans les rues du village.
On ne peut imaginer une communauté nationale sans un principe fondateur, qui est celui de la solidarité de ses membres. Cela veut dire non au communautarisme, cela veut dire se penser dans le collectif social auquel on appartient.
Jean-Pierre Boudard, vous travaillez aujourd'hui dans le logement. Vous êtes à la tête de 6 agences immobilières dans la métropole lilloise, après avoir vous-même vécu à la rue suite à des difficultés familiales, c'est ça ?
C'est ça, c'est exactement ça, oui. Voilà. Depuis maintenant 20 ans, j'ai les agences immobilières. Et depuis que je me suis. Depuis que je suis chef d'entreprise, finalement. J'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance, je dirais, de pouvoir gagner un peu d'argent et d'acheter des immeubles. Et effectivement, ces immeubles-là, j'ai préféré, plutôt que de faire des appartements, 4 appartements par exemple, et les louer à des clients, j'ai préféré en faire des chambres meublées et tendre la main aux SDF. Mmh. Parce que je ne peux pas oublier d'où je viens, forcément, étant donné que j'ai vécu une période difficile de ma vie, je me suis retrouvé effectivement à la rue. Je sais ce que c'est de dormir sous un carton, à la gare, dans une voiture, et dans un hôtel, par exemple, de la gare. Donc, ça, on n'oublie pas. Donc, forcément, le jour où j'ai commencé à gagner un peu d'argent, ben voilà ce que j'ai fait. Bon, je fais ça à mon image, naturellement. Je dis toujours, je tends la main autour de chez moi. Voilà, je récupère de la nourriture, des habits. J'ai la chance d'être dans l'immobilier. Forcément, quand je vais dans une maison, et quand je sens que je peux parler à ces propriétaires qui vont bientôt quitter cette maison, leur demander qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs affaires, s'ils vont jeter un frigo, une table, des chaises, des vêtements. Et quand le contact se passe bien, en général, les propriétaires me laissent récupérer tous ces habits que je redistribue auprès des SDF. Le plus souvent possible, en tout cas.
Et par rapport au logement, comment ça s'organise exactement ? Vous avez donc des logements à disposition ?
Oui. Alors, ça s'organise tout simplement. J'ai un contact avec le collectif des SDF de Lille. Quand j'ai une chambre qui se libère, je rentre en contact avec eux. Je vois souvent Coralie, une jeune fille qui s'appelle Coralie. Elle me présente une personne qui est désireuse de ne plus rester dans la rue, forcément. Et je le rencontre et je discute avec cette personne pendant à peu près une heure, voire une heure et demie, s'il le faut. Je prends tous les renseignements parce que, vous voyez, moi, j'ai des immeubles, effectivement, où je peux recevoir des gens. Je ne suis pas un immeuble médicalisé. Donc, ça veut dire que quand vous avez les SDF, ce sont des gens qui, malheureusement, ont perdu pied. Souvent, ça peut arriver à n'importe qui. Mmh. Et quand ils ont perdu pied comme ça, ils peuvent devenir alcooliques, drogués ou autres. Et forcément, là, je ne peux pas vraiment intervenir. Là, c'est plutôt le domaine du médical. Moi, je tends la main à des gens quand je les rencontre, quand je sens qu'il y a une possibilité qu'ils peuvent s'en sortir.
Mmh. Et la solidarité, voilà, pour vous, c'est un devoir, c'est une obligation. Vous qui avez donc vécu 8 mois à la rue et qui avez été ensuite aidé par des étudiants, hein, qui vous ont hébergé.
Mon parcours est assez atypique. C'est vrai qu'à une époque de ma vie, je me suis retrouvé à la rue. J'avais 17 ans, j'étais très fatigué à un moment donné. Je me suis retrouvé dans un bistrot que je connaissais bien sur la rue de Béthune et que je fréquentais de temps en temps. Et le barman me connaissait, me laissait rentrer à 7h30 du matin. Je m'assoupissais. Et à un moment donné, je me suis réveillé et il y avait 3 étudiants autour de moi. 2 étudiants en médecine, 1 étudiant en architecture, avec qui j'ai discuté longuement pendant 2 heures de ma vie, pourquoi j'en étais arrivé là. Ils m'ont fait un petit déjeuner, et au bout de 2 heures, ils m'ont dit, écoute, t'as l'air d'être un mec bien, si t'as des soucis pour dormir cette nuit, tu peux venir chez nous, rue Nicolas-Leblanc, ils habitaient rue Nicolas-Leblanc en Lille, et tu peux sonner, et on t'ouvrira la porte. À 21h, je me suis présenté chez eux. Hugues m'a ouvert la porte, il s'appelle Hugues, je ne vais pas dire son nom, mais il s'appelle Hugues, un super mec. Il m'a ouvert la porte, je suis monté au 2e étage, on était dans un T4, T5. Je me suis douché, ils m'ont offert une chambre avec un poêle, donc il faisait chaud, j'étais très content. Et j'ai dîné avec eux, et on a discuté longuement, et je me suis endormi, je me suis réveillé le lendemain matin à 11h. On a pris un petit déjeuner, nous avons discuté, il y avait d'autres étudiants en lettres, en bon droit, ce jour-là. Et on a longuement discuté, et je me suis retrouvé chez eux 1/2 nuit, 1/3 nuit, 1/4 nuit, et je suis resté chez eux pendant 5 ans. Mmh. Voilà. Et là, ma vie a changé parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont transformé, qui m'ont changé ma façon de voir les choses, découvrir un autre monde.
Et aujourd'hui, vous tendez la main à d'autres.
Ça, je ne l'ai pas oublié. Ah oui, ça, je ne l'ai pas oublié. On ne peut pas oublier. Vous ne pouvez pas oublier la rue. Encore, moi, je trouve, m'estime chanceux. Quand je croise les SDF aujourd'hui, c'est horrible, quoi. C'est vraiment horrible. Moi, j'ai 8 mois d'expérience dans la rue, ce qui est très peu par rapport à ces gens qui sont là dans la rue depuis 2 ans, 3 ans, 10 ans pour certains, voire plus. Mm. Et puis c'est des parcours, ça peut arriver à tout le monde. Moi, j'ai un chef d'entreprise qui est chez moi qui a 71 ans. Ce monsieur, malheureusement, il a perdu son épouse dans un accident de voiture avec ses 2 jumelles. Sa société s'est écroulée, lui est devenu alcoolique, il est devenu délinquant, et il s'est retrouvé dans la rue. Il y en a un autre, c'est un fils de médecin, c'est pareil. Un monsieur qui est très bien, qui a 42 ans, qui a une fille de 20 ans. Bon, voilà, il a eu des problèmes familiaux importants, que je ne vais pas citer, naturellement. Mm. Forcément, aujourd'hui, il fait une cure de désintoxication. Il va s'en sortir, j'en suis persuadé. C'est un mec bien. Voilà.
Et la vie peut basculer à tout moment. Merci Jean-Pierre Boudard. Vous restez avec nous. On reparlera de votre action et puis de vos espoirs pour l'avenir. Nous sommes maintenant en ligne avec Samantha Tracy, blogueuse engagée, mondo-blogueuse, sur cette plateforme de blog de l'Atelier des médias sur RFI. Bonjour Samantha Tracy.
Bonjour.
Vous avez 26 ans, vous êtes originaire de Brazzaville, vous vivez à Dakar depuis 10 ans, vous travaillez dans une ONG, et puis vous avez été choquée en fait en arrivant à Dakar, choquée par la misère que vous avez vue dans les rues.
En fait, ce n'est pas simplement le fait d'avoir été choquée, c'est plutôt d'avoir vu cette misère exposée. Ici, plus qu'à Brazzaville, malheureusement, on rencontre des gens, des familles qui vivent dans les rues, et ça touche forcément.
Et alors, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Vous avez décidé de vous engager à ce moment-là?
Effectivement, il y a 3 ans, j'ai pris la décision de me consacrer un peu plus aux autres, donc de donner le peu que j'ai. Une ou 2 fois par année, je récupère des vêtements, selon la saison, souvent des pulls et des couvertures auprès de mes amis, que je distribue dans les rues pour les femmes et les enfants principalement, et que j'accompagne souvent d'un petit repas tout simple. Voilà.
À quelle fréquence est-ce que vous organisez ces distributions?
Principalement en mars et en décembre. Ce sont les périodes où je m'investis.
2 fois par an.
Mmh. Voilà, 2 fois par an. En décembre, parce que c'est vraiment la période où il fait super froid à Dakar et on a des personnes qui dorment dans les rues, qui n'ont pas de quoi se couvrir. Et c'est tellement touchant que voilà, il faut faire quelque chose, aussi peu que ça puisse être.
Et vous aidez en priorité des femmes, des enfants?
Oui, les femmes et les enfants, parce que c'est vraiment la couche de la population qui semble être plus touchée. Dans les rues de Dakar, par exemple, on retrouve beaucoup d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes et qui n'ont pas forcément des personnes qui leur apportent le le strict minimum. Voilà pourquoi je me suis sentie déjà très touchée par eux et j'ai voulu apporter mon aide à cette couche de la population.
Et vous connaissez d'autres personnes autour de vous qui ont lancé, seules comme vous, des initiatives de ce type de solidarité ?
Ah oui, il faut dire qu'actuellement, il y a ce réveil citoyen, cette conscience citoyenne qui veut en fait que plusieurs jeunes tendent désormais la main aux autres. Donc ici à Dakar, je citerai Tutsi Tank, par exemple, qui est valorisé, mis en œuvre par Roland Longuet, un jeune Camerounais qui s'investit pour apporter de l'aide aux enfants. Et il y a tellement d'initiatives dans ce sens, tellement de jeunes qui aujourd'hui pensent qu'il est nécessaire de changer les choses à notre niveau. Parce qu'on a tellement attendu que nos États fassent quelque chose, ce qui n'est pas souvent le cas, qu'il est à présent temps que nous-mêmes nous puissions nous investir pour faire changer les choses.
Merci beaucoup Samantha Tressy, blogueuse, citoyenne engagée dans sa ville à Dakar. Agir sans attendre les politiques, c'est un peu le maître mot, Serge Guérin.
Oui, c'est vrai. Alors d'ailleurs, il faut faire attention parce que ça serait aussi remplacer l'État et du coup laisser le fait que l'État ne fasse pas le boulot. Donc c'est comment, en fin de compte, on continue à avoir des actions parce que ça marche aussi par la micro-société, mais en même temps en faisant en sorte d'essayer, entre guillemets, de changer l'État pour qu'il ait cette vision plus solidaire. Parce que c'est les deux qui marcheront. On ne fera pas tout si au-dessus ça ne bouge pas. Comment au-dessus ça bouge ? C'est comment, par exemple, il y a une politique de planning familial dans un certain nombre de pays d'Afrique. C'est un des éléments absolument essentiels pour aussi que les femmes soient plus libres. Donc c'est comment...
Il y a accès à la contraception.
Voilà, tout bêtement. On sait que s'il y a moins d'enfants, ils seront mieux éduqués, et ainsi de suite. Donc là, on a des enjeux majeurs. Donc ça ne pourra pas se faire sans une vision de l'État qui est portée. Voilà. Et en même temps, ça ne pourra pas se faire s'il n'y a pas une pression de la société civile sur l'État. Donc c'est entre les deux que ça se passe. Et c'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas se dire, oh, tant que l'État ne fait rien, moi je ne fais rien parce qu'il n'y a pas de raison. Parce que dans ce cas-là, rien ne bouge. Et en même temps, je fais, mais en me disant, il ne faut pas non plus que je laisse de côté complètement l'État. Comment je fais quand même pression ? Mais en faisant, ça oblige parfois aussi l'État à bouger parce qu'il se dit, j'ai pas trop le choix parce que là, c'est en train de bouger dans la société. Et ça, c'est ça qui est très intéressant. Alors, c'est les jeunes et les moins jeunes. Il n'y a pas une génération qui le fait et puis pas les autres. C'est ça aussi qui est passionnant, c'est que la société bouge, mais finalement elle a toujours bougé, simplement peut-être qu'on la regarde plus aujourd'hui ou qu'elle sent qu'elle en a plus besoin. Mais j'entendais au début des gens qui disaient il n'y a pas de solidarité ou c'est plus comme avant. Alors tout le monde dit c'est plus comme avant, ça c'est le
pour
grand truc.
Beaucoup de sujets
différents. Voilà, quel que soit le sujet, même sur un sujet dont je suis un grand spécialiste qui est le chocolat, il y a des gens qui vont dire ah le chocolat c'est plus comme avant. C'est pas vrai, il y a des meilleurs chocolats aujourd'hui qu'hier. Eh bien il y a des meilleures solidarités aujourd'hui qu'hier. Et faut pas regarder derrière, faut dire comment aujourd'hui on construit dans la modernité, parfois en utilisant les nouvelles technologies ou pas, mais comment on construit de nouvelles choses et comment on a envie, toutes générations confondues, à construire ensemble, parfois en totale proximité, tout autour, juste autour de moi. Ce que disait le monsieur Lille, je m'occupe déjà de ce que je peux ici, je sais pas, voilà, comment déjà ici je fais changer un petit peu les choses, le ici et maintenant, il est central. Comment là, je n'attends pas, je fais changer les choses, mais comment je pense aussi, je dois faire bouger pour que l'État se sente un petit peu aiguillonné, qu'on lui pique les fesses, quoi, pour qu'il bouge aussi.
Et il faut quand même, malgré tout, un vrai projet politique de solidarité. On en reparlera, mais d'abord, ENG d'Anderson Park.
Don't break me down, can only make me stronger. If there was nothing to lose, life wouldn't have a meaning. But since you can't break it down, it only makes me stronger. Golly, I started getting organized and realized for real that this is more than rhymes. Instead of liking, I started loving myself more. I'm drinking water and worrying about my health more. I did a lot of growing, a nigga is kinda wise. Starving artists, craft like man, personified. I'm an African and not an African. And I know it's baffling, but I got a master plan.
Devil off my shoulders, I found the road to freedom. Whatever don't break me down can only make me stronger. If there was nothing to lose, life wouldn't have a meaning. But since you can't break it down, it only makes me stronger.
Et nous sommes en en ligne avec un voisin, Lambert, à Dakar. Bonjour Lambert.
Bonjour. Vous... Bonjour à tous les auditeurs d'RFI.
On est ravis de vous accueillir. Vous êtes président d'une association, il me semble.
Tout à fait. Je vous remercie, Charlie, de me donner la parole.
Alors,
voilà, je suis le président d'une association sénégalaise, Cantine du Cœur. Mm-hmm. Cette association a pour but la protection et l'éducation des enfants. Au travers d'une opération que je vais lancer, je compte tester si effectivement la solidarité existe au Sénégal.
Mm-hmm. Combien vous avez de bénévoles dans votre association ?
Des bénévoles, aujourd'hui, il y en a très peu. Parce que le bénévolat, je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe.
Ah, quand même, ça existe partout dans le monde.
Partout dans le monde, je sais. Mais malheureusement, dans certains pays, ça existe plus que dans d'autres.
Donc vous êtes seul à gérer l'association ?
Non, je ne suis pas seul. J'ai quelques amis sénégalais qui sont avec moi. J'ai quelques télévisions qui vont me suivre également.
Mmh. Et qu'est-ce que vous faites alors concrètement pour ces enfants-là ?
Pour ces enfants, tout simplement, je veux lancer une campagne de solidarité où nous allons faire travailler des mamans pour leur faire gagner leur quotidien pour subvenir à la famille. Et avec ce qu'elles nous auront créé, nous allons les vendre pour avoir des revenus qu'on va mettre au profit des enfants de la rue.
Mmh. Les enfants talibés, notamment ?
Oui, quand je parle d'enfants de la rue, je parle bien sûr des enfants talibés, puisque c'est, je dirais, la couche de population enfantine que l'on voit le plus dans la rue.
Qui mendie dans les rues.
Pardon ?
Qui mendie dans les rues.
Voilà, dans les rues, oui.
Et voilà. Donc, vous cherchez à récolter des fonds.
Oui, mais récolter des fonds en faisant une campagne de dons, de demande de dons, mais tout simplement lancer une campagne sous forme de participation active.
Mmh. En impliquant des mères de famille, en les faisant cuisiner, et pour avoir effectivement des profits. Bien, merci beaucoup Lambert pour votre témoignage. Serge Guérin, est-ce que c'est comme ça aussi que maintenant la solidarité doit s'exercer en mêlant les générations ? C'est aussi le thème de votre livre, l'intergénérationnel, en impliquant des personnes d'un âge différent.
Oui, il n'y a pas une règle, il y a plein de manières d'être solidaire, il y a plein de manières de faire de la solidarité une politique, une vision politique générale, et dans ces logiques-là, c'est vrai que s'appuyer sur les différentes générations a énormément de sens. C'est, disons, une notion même de réciprocité. Des jeunes peuvent apprendre des choses à des plus anciens, et des plus anciens peuvent accompagner et apprendre des choses à des plus jeunes. Et puis ensemble, ils peuvent avoir tel ou tel projet. On voit... Monsieur disait, il n'y a pas de solidarité. Il y a, en France, au moins, on estime à peu près 14 millions de bénévoles. Sans compter plein d'autres gens qui sont inconnus, mais qui aident le monsieur à la retraite du 5e, qui va donner un coup de main à un gamin du 1er, qui a du mal à faire ses devoirs. C'est aussi bête que ça. Puis parfois, c'est bien sûr des choses bien plus puissantes. C'est l'économie sociale et solidaire qui s'appuie énormément sur le bénévolat. Je pense à un groupe comme Aurore. Il y a 2 ans, il y avait 0 bénévole. Aujourd'hui, il y a plus de 800 bénévoles. C'est comment, en fin de compte, je m'appuie sur une vision, et comment je m'appuie sur des personnes qui ont envie de construire quelque chose avec d'autres personnes. Encore une fois, ce quelque chose peut être tout petit ou il peut être extrêmement grand. C'est autour de l'éducation, de la formation, parce qu'on sait bien que ça passe beaucoup par là. C'est de l'inclusion sociale, de l'intégration des personnes. C'est autour de tout simplement de l'éducation au langage. Enfin, il y a tous les pans sont possibles, toutes les manières de faire sont possibles. Simplement, c'est aussi comment j'ai la modestie de me dire, je vais mettre une goutte d'eau, c'est juste une goutte d'eau, mais c'est déjà énorme, mais cette goutte d'eau, elle me prendra peut-être aussi beaucoup de temps. C'est aussi la prise de conscience que tout ça a besoin de temps, a besoin d'écoute, a besoin de se mettre à la place de l'autre, et a besoin de savoir qu'il faut être modeste. Tout va pas être changé comme ça, parce qu'on a tous nos difficultés, on a tous nos paradoxes, et puis l'être humain, il est comme il est pas comme on voudrait nous qu'il soit. Et quand l'être humain nous regarde, il nous trouve aussi peut-être avec nos différences, avec des choses plus ou moins intéressantes. La solidarité, c'est aussi d'une certaine manière la modestie.
Et l'économie sociale et solidaire se développe partout dans le monde, y compris doucement sur le continent africain. Romain Slitine, on a un incubateur d'entreprises sociales et solidaires à Ouagadougou, au Burkina Faso. Quels défis se posent aujourd'hui pour ce secteur-là ?
L'économie sociale et solidaire, déjà, on l'a dit, et c'est aussi un signe d'espoir, c'est qu'il intéresse de plus en plus. Et je reviens sur la France pour donner un chiffre, chez les jeunes en particulier, il y a un sondage qui vient de sortir des 18-25 ans. 60% des jeunes souhaitent s'investir ou travailler dans l'économie sociale et solidaire. Donc ça montre quand même qu'il y a un vrai intérêt. Alors après, c'est vrai que les défis, bon, il y a un premier défi, je pense qu'il n'est pas encore assez connu, ce secteur, ce champ-là. Parce que souvent, on dit, il y a plein de problèmes. D'un côté, on voit les problèmes, on les voit, on a vu plein d'exemples au quotidien. Et ensuite, on se dit, mais que peut-on faire ? Et bien, la bonne nouvelle, c'est aussi qu'il y a énormément d'entreprises, d'organisations de l'économie sociale et solidaire dans lequel on peut s'investir pour lutter contre les exclusions ou pour plus de solidarité. Donc, soit en tant que bénévole, soit en tant que professionnel, qu'entrepreneur, que salarié pour agir. Alors, c'est vrai que les grands défis, c'est comme c'est un secteur qui n'est pas encore assez connu, pour se développer, on a toujours besoin d'argent et il y a évidemment une question du financement de l'entrepreneuriat social, de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs spécialisés comme France Active en France, finance l'économie sociale et solidaire. Il commence à y avoir des banques aussi qui sont spécialisées sur l'économie sociale et solidaire. Une banque qui vient d'être créée qui s'appelle la NEF, la Nouvelle Économie Fraternelle, qui vient pas de se créer, mais qui vient de se transformer en banque.
Mais pour l'instant, les financements restent publics pour beaucoup.
Alors,
de l'État.
En fait, c'est plutôt une idée reçue, ça. L'économie sociale et solidaire, justement, se développe avec des fonds privés et avec une démarche entrepreneuriale. Il y a bien sûr l'aide de l'État, mais souvent dans les projets d'entreprise sociale et solidaire, l'aide de l'État n'est pas toujours majoritaire, et voire parfois est minoritaire, représente 5-10% seulement du modèle économique. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et du coup, l'économie sociale et solidaire, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a une dimension aussi d'efficacité. Et donc souvent, et on l'a dit, et ça c'est des débats aussi politiques, c'est pour lutter contre tel fléau, contre tel problème, santé, exclusion, etc. Qui est le mieux placé ? Est-ce que c'est l'État en direct, et du coup c'est les politiques publiques traditionnelles, ou bien c'est les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans leur diversité, qui avec un appui de l'État, mais qui est souvent économe des finances publiques, peuvent agir de manière plus efficace. Et donc, et peut-être un dernier défi, c'est comment on évalue l'impact de toutes ces initiatives, comment on évalue l'impact social de ce que l'on fait en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que avec l'argent que l'on utilise, on arrive vraiment à agir pour plus de solidarité ou plus ou de lutte contre l'exclusion, par exemple?
Et en tout cas, en France, on a une loi qui reconnaît ce secteur depuis juillet 2014 et qui d'ailleurs définit comme principe l'idée de poursuivre un but autre que le seul partage des bénéfices. Voilà, c'est un secteur qui s'organise en fait. C'est récent,
oui,
mais ça
exactement.
S'organise.
Cette loi, effectivement, qui a été portée par Benoît Hamon en 2014, structure le secteur, permet du coup de le définir, de le reconnaître, permet aussi de flécher des financements et de développer les financements pour ce secteur, et permet aussi à tous ceux qui souhaitent s'y engager de pouvoir le faire de manière très inclusive. Et c'est vrai que là-dessus, la France jusqu'à présent était un peu balbutiant au niveau des normes juridiques, et grâce à cette loi de 2014, elle devient vraiment un modèle pour la structuration du secteur de l'économie sociale et solidaire.
Jean-Pierre Boudard, vous qui logez des sans-abri hein, pour une somme modique autour de 90€ par mois dans des chambres. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que vous militez aujourd'hui ?
Alors, j'écoutais ce que disait Serge Guérin, le sociologue, et je trouvais ça... Bon, il a tout dit pratiquement, ce monsieur. Quelque part. Et je pense qu'aujourd'hui, les médias se remuent tous les hivers, à vrai dire. Et je pense que c'est vrai que l'État ne peut pas faire grand-chose, finalement, et aussi de toi, le dieu de cette cathédrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut réussir à faire des choses concrètes pour les SDF, il faut créer, comme a été créé le Téléthon, des restaurants du cœur ou pour le sida, il faut créer une émission nationale avec des personnes connues comme Danny Boone ou Jamel Debbouze ou autres, des parrains qui ont les moyens de se faire entendre, naturellement, et de récolter de l'argent et de créer des structures de logement et aussi des ateliers de travail, d'avoir des psychologues, des éducateurs, des psychiatres. Parce que quand vous êtes dans la rue et quand vous voulez être récupéré de la rue, forcément, il faut un suivi psychologique. S'il n'y a pas de suivi psychologique, il ne se passera absolument rien du tout. Vous pouvez refaire ça tous les hivers. C'est-à-dire que les gens, il faut absolument bien les entourer, leur montrer le chemin. Parce que quand vous avez perdu pied, vous avez perdu pied. Et ça, c'est terrible. Il n'y aura pas d'autre solution. On pourra faire ça tous les hivers. Les SDF, ce n'est pas que l'hiver, c'est toute l'année. Mmh. Donc voilà. Ensuite, les SDF, vous savez, c'est compliqué. Il y a des gens qui, les gens pouvaient aider, puis il y a des gens qui ne pouvaient plus aider, parce que c'est comme ça. Il faut récupérer ce qui est récupérable. Excusez-moi de dire ça. Moi, je tends la main à des gens, quand je le sens bien, je me dis, il faut le récupérer.
Quand ils peuvent se réinsérer.
Ben oui, ben voilà, il faut les réinsérer, exactement. Il faut leur remontrer le chemin de la vie.
En tout cas...
Et ça, c'est très compliqué.
Ouais.
C'est très compliqué.
Un téléthon pour des sans-abri, pour mobiliser des fonds à une échelle plus importante. Serge Guérin, on arrive à la fin de cette émission. Alors, quel projet politique, on en a parlé, quel projet politique pour la solidarité?
Je crois qu'un des termes qu'a utilisé Jean-Pierre Boudard, c'est la notion d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre juste de l'argent. Il s'agit comment on accompagne les gens, comment... avec eux, on trouve le chemin. Et chacun a son chemin. Tout le monde n'a pas le même chemin. Tout le monde ne peut pas espérer être, je sais pas moi, prix Nobel. Et c'est pas le sujet. Mais chacun, à son niveau, il peut progresser. Et comment on fait une société qui se dit, on crée une société accompagnante, qui entre autres s'appuie sur l'économie sociale et solidaire, s'appuie sur l'intergénération. Et comment on fait une société où on dit, il y a pas assez d'emplois. Mais il manque plein d'emplois dans l'accompagnement des personnes, auprès des plus âgés, auprès des plus jeunes, dans l'éducation, dans les gens qui ont perdu un petit peu le chemin. Il y a des milliers, des centaines de milliers d'emplois. On les cherche, ils sont là. Et donc simplement, c'est inverser les hiérarchies. La priorité à la solidarité et tout le monde sera mieux et ça sera plus rentable, y compris pour le pays.
Merci, merci beaucoup Serge Guérin, Romain Slitine, Jean-Pierre Boudard pour ces messages d'espoir et merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins.
La bande passante.